Certains d'entre vous qui connaissent mal ou pas du tout ce qui est très bien. Burroughs m'ont demandé comment prendre cet auteur qui a une grande importance dans la littérature américaine et dans la littérature moderne en général. Moi, je crois que la meilleure manière pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est de prendre un de ses romans les plus connus. Il vaut mieux éviter les... Il a fait des essais théoriques sur le contrôle, sur tout ça, mais je crois que ce n'est pas le meilleur de son œuvre. Il vaut mieux prendre un de ses romans les plus connus, qui est Le Festin nu, qui a été très très bien traduit chez Gallimard. Et dans Le Festin nu, vous verrez, il y a tout un affrontement des groupes de contrôle, et il y a une préface très intéressante de Burroughs. Et aussi, je signale, uniquement comme prise de contact, pour ceux qui le connaissent déjà, ça vaut pas ce que je dis, il y a un numéro de Lerne intéressant. Il y a un numéro de Lerne intéressant sur Burroughs, et je crois qu'il n'est pas tout seul. Burroughs et peut-être Ginsberg, puisque Burroughs est un des trois grands de la génération Beat, les deux autres étant Ginsberg le poète et Kerouac. Oui, les trois là, quant à ce qu'on a fait précédemment sur la littérature moderne, Burroughs, Kerouac et Ginsberg seraient aussi des clés, des personnages fondamentaux de la littérature moderne. Bon, alors, vous vous rappelez, la dernière fois, on avait un peu déplacé notre problème des rapports de force et des formes qui en découlent, et on l'avait posé au niveau des formations de droit, des formations de pouvoir ou de droit, plutôt des formations de pouvoir et de droit. Et on avait cherché, même du point de vue juridique, à esquisser sur une courte période, toujours, puisque c'est la période considérée par Foucault, on avait esquissé une espèce de tableau des formations de souveraineté, des formations de discipline et des formations de contrôle. Et puis, j'avais terminé en disant, oui, on pourrait très bien aussi chercher, comme ça, ça nous ferait une soudure avec ce que nous faisions les autres années, on pourrait très bien chercher aussi au niveau des formations d'image, des formations de l'image, pour voir, pas du tout pour appliquer, pas du tout, mais pour avoir des points de repère. Si je reviens au thème des régimes d'image, est-ce que je peux trouver quelque chose d'équivalent, comme ça, pour faire des regroupements? Et ce serait fondé chez Foucault, car il y a trois interventions de Foucault concernant l'image picturale. L'une, c'est le texte célèbre sur les Ménines, de Velázquez, et qui correspond à la formation classique. L'autre, c'est le manuscrit qu'il n'a pas voulu publier, sur Manet. Et l'autre, c'est le texte auquel nous nous sommes souvent référés, sur Magritte. Alors, c'est des choses très vagues que je voudrais dire. Est-ce que, du point de vue de l'image, et même alors, notre souci les autres années, notre souci quand on s'occupait de cinéma, est-ce qu'on peut parler de régime d'image? Et qu'est-ce qu'on pourrait découvrir? Est-ce qu'on pourrait y découvrir une confirmation? Je me dis même, en fonction de ce qu'on a fait les autres années, là, je vois bien la possibilité de définir des régimes d'image. Et alors, est-ce qu'on pourrait retrouver quelque chose comme, sans vouloir beaucoup, sans vouloir que ça coïncide sur tous les points, mais quelque chose comme un régime de souveraineté comme régime d'image, un régime de discipline, un régime de contrôle. Bon. Je pense à un livre qui pourtant ne se réclame pas de Foucault et très indépendant, un livre de Danet, de Serge Danet, D-A-N-E-Y, qui est un critique de cinéma venu des Cahiers. Ce livre s'appelle « La rampe ». Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il distingue trois régimes d'image. Et de l'image cinématographique. Et le premier, il le fait aller jusqu'à la guerre. En fait, c'est une périodisation propre au cinéma, là. Jusqu'à la guerre, au premier régime. Or, comment est-ce qu'il le définit? Il le définit par une question. Il dit la question fondamentale, c'est à quoi renvoie l'image, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a derrière l'image? Qu'est-ce qu'il y a derrière l'image? Ça veut dire quoi? Il dit oui, dans un tel régime d'image, si vous voulez, chaque élément de l'image joue le rôle ou peut jouer le rôle d'un cache temporaire. Et c'est dans l'image suivante qu'on voit ce qu'il y avait derrière. Et il dit la formule de ce régime d'image, ce serait le secret derrière la porte. Et c'est vrai que dans tout le cinéma classique, l'avant-guerre, la porte est quelque chose de fondamental. Notamment dans la comédie américaine, le rôle de la porte. Et Romère avait fait tout un cours, je crois, tout un cours à l'IDEC sur le rôle des portes chez Lubitsch. Mais la porte, c'est, en effet, c'est le cache temporaire. Alors, ce qu'il y a derrière la porte, ou ce qu'il y a derrière l'image, bien sûr, ça apparaîtra dans l'image suivante. Mais ça implique que ce régime de l'image, ce premier régime de l'image, est un régime de totalisation. Un film, c'est une belle totalité. Et cette totalité se présente comment? C'est une succession des images qui tend toujours vers un quelque chose qui est derrière. C'est ce quelque chose qui est derrière qui va opérer la totalisation. On peut dire ça comme ça. Je pense à un très grand critique d'art qui s'appelle Rigol, du 19e siècle, et qui, lui, faisait des périodisations avec trois fonctions de l'art, des arts plastiques. Embellir la nature, spiritualiser la nature, rivaliser avec la nature. Je dirais que ce premier régime de l'image, le secret derrière la porte, qu'est-ce qu'il y a derrière l'image, c'est précisément la première formule. Embellir la nature. Embellir la nature en faisant une totalité des images. Un tout des images. Alors, chaque image se dépasse dans l'image suivante, mais l'ensemble des images tend vers un tout. Bon. Or, c'est ça qui a fait, il me semble, l'ambition du premier cinéma. c'est ce régime de l'image. Un quelque chose derrière l'image qui va constituer le tout des images, ou qui va constituer le centre déterminant des images. D'où, au sommet de son ambition, les grandes constructions en triptyque. Qu'est-ce qui a tué ce cinéma ? Remarquez que ça répondrait assez bien si vous reprenez, si vous vous rappelez l'analyse que Foucault fait des Ménines. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a derrière l'image ? Le roi, ce que Foucault appelle la place du roi. Le roi qu'on voit dans l'image, que sous forme d'un reflet dans le miroir. Et tout le tableau est organisé vers ce point qui est derrière l'image, puisqu'on ne le voit pas. Et on voit bien que dans les Ménines, tout fonctionne en fonction de cache. Par exemple, on voit l'envers du tableau que le peintre est en train de faire, on ne voit pas le tableau lui-même. On voit le reflet du roi dans le fond, mais on ne voit pas le roi lui-même. Et tous les éléments de l'image tendent vers le roi qu'on ne voit pas. Donc les Ménines répondraient assez bien à la formule de Danet. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'image ? Ben derrière l'image, il y a le roi, c'est-à-dire le souverain de l'image. Bon, c'est juste pour... je ne souhaite pas du tout insister. Ce qui est intéressant, c'est la question... Bon, je reviens au cinéma. Pourquoi ce grand cinéma, ce premier cinéma a-t-il disparu ? Ce grand cinéma, alors qu'on pourrait appeler le cinéma classique. Il disparaît avec la guerre. Pourquoi ? Ben là, il faut réunir, en effet, les textes, on les avait mieux vus les autres années, je rappelle juste, les textes de Walter Benjamin sur le rapport entre ce qu'il appelle les arts de reproduction. Et la formation des régimes totalitaires. Il faut reprendre la manière dont un cinéaste comme Cyberberg s'inspire de Benjamin pour aller plus loin. Lorsque Cyberberg dit, il faut juger aussi Hitler comme cinéaste. Qu'est-ce que ça veut dire juger Hitler comme cinéaste ? Ça veut dire que les régimes totalitaires, et avant tout le régime nazi, s'est présenté sous quelle forme ? Une espèce de mise en scène. Il ne se réduit pas à cela, mais une espèce de mise en scène des masses. Les grandes manutentions de masse. Les grandes mises en scène qui font que, et là du coup c'est Virilio qui s'enchaîne avec Benjamin et avec Cyberberg, lorsque Virilio montre très bien que jusqu'au bout, quoi, le nazisme s'est vécu comme une espèce de super Hollywood, comme une espèce de, en concurrence avec Hollywood pour aller plus loin, dans une espèce de mise en scène colossale. Qui était la propagande d'État et la manutention des masses. Alors pourquoi est-ce que ça sonne le glas du cinéma ? Pourquoi, d'une certaine manière, ça sonne le glas des ambitions de Eisenstein et de Gans ? C'est évident. Ce qui termine le cinéma dit classique, c'est quoi ? C'est Leni Riefenstahl. Le cinéma classique, il ne meurt pas d'une médiocrité de sa production. Il meurt vraiment de tout à fait autre chose, à savoir que, dans son ambition la plus profonde, il est comme réalisé et dépassé, et abominablement dépassé par les grandes mises en scène d'État. Si bien que, après la guerre, si le cinéma ressuscite, c'est en fonction d'un tout autre régime. Ce ne sera plus un régime de souveraineté. Ce ne sera plus la question « qu'est-ce qu'il y a à voir derrière l'image ?» D'une certaine manière, qu'est-ce qu'il y a à voir derrière l'image ? Le nazisme nous avait donné la réponse. Ce qu'il y a à voir derrière l'image, c'est les camps d'extermination. Qu'est-ce qu'il y a à voir derrière la propagande d'État ? Qu'est-ce qu'il y a à voir derrière les manutentions de masse ? Les camps. Et je dis que tout le cinéma d'après la guerre, ou plutôt Danet montre très bien que tout le cinéma d'après la guerre s'est formé en fonction de cette constatation. Et à cet égard, je crois que est absolument exemplaire, à cet égard comme à d'autres d'ailleurs, est exemplaire et fondamental, une œuvre comme celle de René. Ce qui fait l'importance de René dans, comme ce second régime de l'image, c'est que René n'a jamais eu qu'un sujet. Simplement, il a su le varier. Le seul et unique sujet, la seule et unique préoccupation de René, c'est l'homme qui revient des morts. Qu'est-ce que c'est revenir des morts ? Et c'est bien, on sent tellement que c'est ça son problème, je veux dire. Très curieux, c'est ce qui fait que c'est le problème de quelqu'un. Je veux dire, même physiquement, l'espèce de côté. C'est pas, je l'ai jamais vu, René, alors j'en parle, mais d'après les photos, il y a une espèce de côté zombie chez René, homme qui revient des morts. Ensuite, quand toute son œuvre est pensée à son au dernier film, là, qui est une splendeur, l'amour à mort, l'homme qui revient des morts. Mais c'est incompréhensible sans un des premiers films de René qui était Nuit et brouillard. Qu'est-ce qu'il y a après les camps ? Qu'est-ce que c'est revenir des camps ? Mais alors, je dis que le cinéma ne pouvait se reconstituer après la guerre que en changeant de régime d'image. Et ça allait être quoi ? Ce que Danet assigne, ou la manière dont il définit le régime d'image, avec le néo-réalisme, et à partir du néo-réalisme, c'est qu'on ne se demande plus qu'est-ce qu'il y a à voir derrière l'image, mais qu'est-ce qu'il y a à voir dans l'image et sur l'image. Qu'est-ce qu'il y a à voir dans l'image et sur l'image ? Commencez par voir. Vous êtes incapable de voir ce qu'il y a dans une image. Vous avez été incapable de voir que derrière les grandes images de propagande d'État, il y avait les camps. Cherchez pas ce qu'il y a derrière les images. Commencez à apprendre à lire une image. Commencez à percevoir une image. D'une certaine manière, le premier cinéma se proposait d'être une espèce d'encyclopédie du monde. Ben non. Il n'y a pas lieu de faire une encyclopédie souveraine. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Vraiment, une pédagogie d'image.